Eh bien, bonjour, ravie d'être avec vous. Donc, Hélène David, je suis responsable de ce que nous avons appelé le pôle ado-sexo. En fait, c'est le pôle qui s'occupe de l'accompagnement psycho-éducatif au sein de l'association Agir contre la prostitution des enfants. Pour dire très très vite, cette association a 40 ans l'année prochaine. On va proposer dans beaucoup de départements de faire des actions pour fêter nos 40 ans. Enfin, on aimerait bien même peut-être disparaître s'il n'y avait plus de prostitution des enfants, ce serait bien. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, comme on l'a vu. Donc, à la CPE, pour faire très vite, nous avons un pôle juridique, un pôle plaidoyer que nous faisons vraiment depuis 40 ans. Hein. Et puis, ce pôle donc, que j'ai mis en place en 2020, après avoir déjà travaillé sur la prostitution de mineurs dans une autre structure parisienne qui s'occupe d'addiction. Et c'est en me penchant sur l'addiction des mineurs que j'en suis venue à travailler sur la prostitution des mineurs. Et j'y reviendrai plusieurs fois parce que le lien entre les deux, il est évident. Et souvent, parmi les acteurs que je rencontre, je leur dis, eh bien, je vois que quand même, hein, on a quand même un petit peu molli sur la question de la prévention de la consommation de produits. Hein. Je vois dans des éducateurs de prévention spécialisés, mais aussi dans des foyers, ma foi, il y a tellement, tellement de difficultés, tellement de problèmes à gérer que les bédos, ma foi, c'est pas si grave que ça. Sauf que, je redis, attention, parce qu'effectivement, c'est un outil privilégié des prédateurs, cette question de la consommation de produits. Et j'y reviendrai donc tout à l'heure. Donc, ça fait effectivement maintenant, moi, pour le coup, une douzaine d'années que je m'occupe de cette question de la prostitution des mineurs après plusieurs décennies où je me suis occupée de consommation de produits. Alors, dire très très vite qu'effectivement, il y a quand même sur l'accompagnement, puisque c'était quand même un petit peu ça aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, et que, de vous parler de ce que nous proposons. Et d'ailleurs, je dis tout de suite pour ne pas oublier qu'effectivement, notre convention au niveau national permet que nous soyons interpellés par des acteurs de la PJJ de n'importe où. Hein. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir rencontrer les jeunes s'ils sont à 600 km de là où nous intervenons, mais tout de même, on a déjà essayé d'aider des professionnels, soutenir des professionnels et même parfois des parents, même s'ils sont à l'autre bout de la France. C'est vrai que la visio, c'est pas mal, ça permet quand même déjà un peu un quelque chose. C'est donc avec au niveau national, mais aussi, je viens de discuter avec Madame Legrand, qui est effectivement côté Île-de-France, et donc nous avons, cette année, nous sommes en train de finir de signer une convention pour l'Île-de-France et l'Outre-mer. Donc, avec un gros travail que je laisserai peut-être à un moment donné Madame Legrand détailler, mais on est en train de construire donc quelque chose de plus proche, évidemment, en Île-de-France, puisque en Île-de-France, nous avons 25 permanences, et en région, nous avons également 25 permanences, mais ce n'est pas la CPE qui les mène, ce sont des partenaires avec qui nous avons signé des conventions et qui ont souhaité donc ouvrir des espaces dédiés à cette prise en compte donc de la souffrance liée à l'exploitation sexuelle chez les mineurs. Et ces partenaires, on leur propose ce que nous avons joliment appelé un compagnonnage, c'est-à-dire qu'on propose de la formation, mais pas que de la théorie. On va, pendant un an et demi, deux ans, mais il y en a certains, ça fait deux ans et demi, on va être à leur côté pour réfléchir sur des situations avec des problématiques qu'ils n'ont pas encore rencontrées, si vous voulez. Et on va les aider à vraiment dans une transmission des bonnes pratiques, et même plus que de la transmission, c'est que maintenant, eux aussi participent à améliorer nos bonnes pratiques. Donc on essaye de faire comme ça un peu un réseau d'acteurs et un réseau aussi parce que malheureusement ces mineurs sont très très ils changent énormément de lieux Et vous avez des jeunes qui habitent effectivement à Lyon qui viennent à Paris, ou d'autres de Paris qui vont à Lyon, etc., etc. Donc aucun département n'est à l'abri. Il y a un peu plus d'un mois, je suis allée, je vous dis, à La Roche-sur-Yon. Et donc là, je me disais, oh ben quand même, ça doit être un peu différent. Et à un moment donné, un des acteurs me dit, ben voilà, dans le quartier, là, juste à côté, il y a un immeuble où les prix sont affichés dans l'immeuble, à côté des prix. Vous savez, les dealers savent très, très bien communiquer avec des paniers, le 1 pour 2, le 2 pour 3. Enfin, ils savent faire comme ça des actions de communication et de management et aussi de marketing. Eh bien, aujourd'hui, donc, dans cette ville qui me semblait être quand même très éloignée des grands circuits de l'exploitation prostitutionnelle de mineurs, eh bien, ils ont effectivement amélioré leur communication sur les prix d'actes sexuels de gamins et de gamines. Alors, des axes de travail pour une prise en charge quand même la plus efficace possible. On voit que cette prise en charge, elle est complètement différente d'un département à l'autre. On l'a dit ce matin aussi pour d'autres aspects. C'est vrai que lorsque ça peut marcher, c'est quand même quand on a du côté de la police et de la justice quelque chose qui fonctionne, mais aussi au niveau de la santé. Hein, si on n'a pas l'aspect santé, et effectivement Aziz en a beaucoup parlé de ce psychotraumatisme et de toutes les autres pathologies qui tournent autour, effectivement, c'est quand même compliqué d'aider, et notamment, par exemple, des hospitalisations aussi. Hein. Alors, pas des hospitalisations pour mettre à l'abri, attention, ça ne marchera pas, mais des hospitalisations, par exemple, parce que dans le cas de psychotrauma complexe, on a de ces jeunes qui, effectivement, on leur propose, par exemple, des rendez-vous une fois tous les 15 jours pour venir parler des psychotraumatismes qu'ils ont. J'en ai un comme ça, qui fait une heure de RER et métro, pour ensuite avoir un rendez-vous où il va ouvrir sa boîte de Pandore avec les problèmes qu'il a vécus. Et ensuite, il doit reprendre son petit RER tout seul. C'est pas possible. Il faut quand même un environnement stable et sécurisant pour ouvrir ces difficultés, si vous voulez. Donc évidemment que souvent, dans le retour, eh ben, il va consommer et il va arriver dans des états pas possibles. Et puis on a vu qu'au fur et à mesure, ça devenait de plus en plus difficile d'arriver. Et comme il avait 15 minutes de retard, le rendez-vous était foutu. Donc ça, c'est voué à l'échec d'emblée. Voyez ? Donc c'est ça qu'on essaye de dire. Ce que nous demandons des fois à ces gamins ou gamines qui sont écrasés, c'est de l'ordre de l'insupportable et de l'insoutenable. Donc sans la santé, ben effectivement, on n'avance pas beaucoup. Et puis j'ai gardé évidemment l'éducatif et la protection en dernier. Et là, ben, y a quand même encore des trous dans la raquette. Et je pose tout de suite un regret que j'ai, c'est que dans beaucoup de situations, je constate quand même que beaucoup, beaucoup d'éducateurs référents, notamment du côté de la protection de l'enfance, ont une fonction qui ressemble plus à une enquête pour une évaluation qui va aller au juge et autres. Donc ce sont plus des enquêteurs que des éducateurs. En charge de quoi? Et c'est pour ça que j'ai mis un petit sous-titre. Notre leitmotiv à la CPE, c'est de dire, nous, notre rôle, c'est d'essayer de donner envie de vivre autre chose. C'est pas notre préoccupation, c'est pas de dire aux jeunes, faut que tu sortes de la prostitution. Ils s'en doutent. Mais c'est comment donner envie de vivre autre chose, comment l'amener vers autre chose. Et ça, c'est vraiment du travail éducatif. Sauf que on est quand même omnubilé par le recueil des faits, l'enquête, pour pouvoir faire un signalement, et donc je vous montrerai après, si on se place du côté du jeune, ça a quand même un sacré impact. Alors, vous dire très très vite ce que nous proposons à la CPE, outre donc le service juridique, nous avons des formations. Là, par exemple, je vais vous parler sur une heure, donc ça va être quand même très très rapide, mais nous proposons donc des formations, et justement dans le cadre de nos conventions avec le National ou avec Île-de-France et Outre-mer, on peut très bien imaginer des formations sur vos territoires si effectivement c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis, bien sûr que notre travail, c'est essentiellement un soutien des professionnels. Comme vous l'avez dit, c'est quand même souvent des situations qui sont déroutantes, qui sont émotionnellement choquantes. Il ne faut pas l'oublier, ça, hein, le traumatisme vicariant, il est aussi pour des professionnels qui parfois sont confrontés à des réalités qui sont d'un glauque, effectivement, quand même pas possible. Hein. Voilà. Et puis, je dirais aussi que nous avons de l'accompagnement des parents, et eux aussi, n'oublions pas que pour eux, c'est un traumatisme aussi. Pour certains, je prendrai aussi le temps de parler un petit peu de ses parents, même si ça va aller très très vite, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit, bien sûr, dans l'enquête de Aziz qui pointe de fait les agressions sexuelles au sein de la famille, mais moi je vais essayer de vous demander de faire un pas de côté, parce que nous avons pas mal de situations où dans la famille, il n'y a pas eu d'agression sexuelle, il n'y a pas eu de dysfonctionnement, et je vous parlerai effectivement de ces pratiques les plus barbares de proxénètes qui ont comme outil pour mettre une emprise le viol en réunion, par exemple, avec un guet-apens. Et donc, bien sûr que du coup, l'agression sexuelle, elle va être cochée par le jeune, hein, parce que avant la prostitution, mais le avant la prostitution, ça peut être une demi-heure avant les premiers clients. Hein. J'avais comme ça un jour une jeune, c'était un peu au début de mes premières rencontres, et donc cette jeune, je la voyais pour la troisième fois, et je commence effectivement à lui poser la question sur son relationnel, parce que ce sont des handicapés de la relation à l'autre. Hein. Et donc, bien sûr, j'essaye souvent de savoir si avant tout ce qui s'est passé dans les agressions sexuelles et l'exploitation sexuelle, s'ils ont eu quand même une relation amoureuse qui était quand même jolie pour un beau souvenir. Voyez. Et donc, je lui pose la question, mais avant ça, est-ce que tu as eu une relation dont tu te souviens, enfin, sympa. Elle me dit oui, et je lui pose cette question stupide, parce qu'évidemment, je n'y mettais pas le même sens que ce qu'elle a entendu. Je lui dis, et ça a duré combien de temps? Je voulais savoir si c'était une relation amoureuse qui avait duré quelques mois, enfin voilà, quelle histoire amoureuse elle avait eue. Et elle me répond, 20 à 30 minutes après, il a ouvert la porte, et elle ne savait pas si c'était les copains qui profitaient de tout ça ou les premiers clients. Pour elle, c'était les premiers clients. Donc évidemment que ça m'a fait un choc, une émotion, hein, parce que c'est terrible. Donc peut-être qu'elle a vu passer un tout petit peu de mon émotion. J'essaye d'être neutre, vous voyez, comme le joueur de poker, hein, évidemment, parce que quand on entend toutes ces horreurs, si elle lise ou il lise sur notre visage qu'effectivement on est choqué, elles vont s'arrêter là. Hein, elles vont pas aller, souvent elles en ont encore à raconter, mais elles vont s'arrêter là, parce qu'effectivement elles voient bien qu'on est déjà sur le qui-vive. Enfin, voilà. Donc, et elle me répond... C'est triste hein, quand même. Donc évidemment, vite, j'ai repris des éléments valorisants dans son existence et dans l'avenir pour elle. Hein. Mais voilà. Alors, on soutient donc les parents. Notre approche est effectivement familiale. 20% des situations que nous avons viennent des parents. D'accord ? 20%. Et parfois, il n'y a pas encore l'aide sociale à l'enfance. Là, j'ai une maman, par exemple... Elle sait qu'il y a eu une audience, le juge a donc prononcé une AEMO. J'ai donc téléphoné à la structure qui avait été nommée. Ça fait de ça un mois, l'audience, et ils me disent, ben, on aura quelqu'un en février. Ben oui, c'est une réalité, c'est une réalité. Donc, on est là aussi pour être là déjà. Hein. Parce que la gamine, elle, cette mise en route, le juge, ça n'a fait qu'accélérer son départ et ses fugues. C'est pas toujours le cas, heureusement. Hein. Mais voilà, donc ce laps de temps-là, il est hyper important. Et si on peut ensemble essayer de voir comment faire, eh bien, évidemment, c'est quand même intéressant. De l'accompagnement des jeunes, et je le verrai donc après. Nous sommes sur de l'accompagnement de situations de prostitution, mais aussi, nous avons une intervention précoce, ça veut dire qu'on est sur les situations de pré-prostitution. C'est-à-dire les situations où, effectivement, une jeune a subi un viol en réunion, par exemple, et c'est su, enfin voilà. Ça, c'est une personne, une gamine ou un gamin, parce que ça peut être aussi des gamins, parce que des fois, les viols en réunion sur les gamins, ça peut être en signe de représailles, hein, dans des quartiers, j'en ai quelques-uns comme ça. Hein. Donc, évidemment, ils sont désignés comme une proie hyper facile, évidemment. Surtout si, en plus, il y a eu une vidéo avec un chantage qui est fait. Ensuite, dans ces situations de pré-prostitution, vous avez bien sûr aussi tous les jeunes qui s'exhibent sur Internet, donc les nudes et compagnie, ou ce que Serge Tisseron a appelé l'extimité. Hein. Donc évidemment, ça aussi, c'est un facteur de fragilité que les prédateurs, eux, essayent de guetter sur les réseaux sociaux. Et agir à ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus rapide et efficace que de travailler dès lors que la prostitution est déjà enclenchée, l'emprise par des proxénètes est déjà là. Un autre sujet, c'est la fugue. Là, par exemple, j'ai une jeune qui commence par des petites fugues avec des copines, et puis il rencontre des copains, et puis de ces petites fugues, on voit qu'elle a une proposition de gagner du fric. Ben oui, parce que si on est en fugue, il faut bien payer l'hôtel où on va, ou même le lieu du copain qui héberge dans son appart. Au bout d'un moment, ça crée une dette et il va dire, ben, tu sais, là, je te nourris, maintenant, c'est à toi de ramener de l'argent. Alors, ben oui, mais comment je peux faire? Ah ben, c'est simple, hein, soit tu deals, soit tu as des actes sexuels. Alors, il y en a qui disent, bah, je vais dealer. D'accord ? Et puis, en dealant, bah, tu prends aussi du produit. Et on enclenche comme ça une forme de circuit de délinquance, mais aussi donc, un circuit où on va pouvoir dire à un moment donné, ah bah, tu as perdu le produit, tu n'as pas ramené assez, etc. etc. Donc maintenant, eh ben, tu te prostitues. Voilà. Et ça peut être tout à fait aussi une autre forme où elles vont être enclenchées. On a aussi des actions de prévention, enfin voilà. Je travaille également, oui, je l'ai dit, donc sur la prostitution, la pré-prostitution et aussi sur le proxénétisme. Depuis maintenant presque 3 ans, j'anime des séances de prévention de la récidive en prison auprès de jeunes majeurs proxénètes. Je suis allée également à Porcheville, donc prison donc pour mineurs. Aussi, ce n'est pas facile avec les mineurs parce que c'est sur la libre adhésion, donc ils ne viennent pas beaucoup. Hein, faudrait aller les chercher autrement. Donc, c'est en réflexion. Et puis, j'ai accompagné quand même plusieurs mineurs victimes et auteurs. Et j'ai également une jeune mineure qui n'a été que recruteuse, elle n'a jamais été elle-même prostituée. D'accord ? C'est une éducatrice PJJ qui me l'a amenée. Donc, effectivement, ça fait un peu plus d'un an aujourd'hui que je... Alors, je ne la suis pas... Aujourd'hui, c'est vraiment de loin en loin, mais quand même, parce que, de fait, ce qu'on essaye, c'est vraiment de montrer comment elle était quand même sous l'emprise du petit copain. Le petit copain n'a pas souhaité l'exploiter sexuellement, elle, mais effectivement, il lui a quand même, il l'a quand même exploité dans le sens où il est allé la chercher pour qu'elle recrute deux gamines qui, effectivement, étaient dans le quartier. D'accord ? Voilà. Oui, j'ai pas trop le temps. Voilà, je passe. L'approche que nous avons, je dois tout de suite, effectivement, vous positionner que notre approche, elle est issue de, justement, de tout ce que j'ai rencontré dans les consultations jeunes consommateurs. Toutes les bonnes pratiques auxquelles j'ai participé à la construction ou que j'ai vu se construire dans les années 2005, 6, 7, etc., etc., ce sont des pratiques qui m'ont été utiles dès lors que j'ai souhaité m'intéresser aussi à cette question de la prostitution chez les mineurs. Et donc, c'est juste en adaptant et avec une différence énorme, c'est justement le psychotraumatisme qu'il n'y a pas avec des jeunes consommateurs souvent. Ce n'est pas parce qu'on consomme 5 joints par jour qu'on a un psychotraumatisme. En revanche, si on est exploité prostitutionnellement, ne serait-ce qu'une seule journée, il y a bien du psychotrauma. Si c'est une journée, ça sera moins de psychotrauma que si c'est 3 ans. Et si c'est une journée ou 3 ans à 12 ou 11 ans, ça ne sera pas la même chose que la gamine ou le gamin qui commence à 17. Parce que, effectivement, le poids sur le démarrage de la construction de l'identité, évidemment, il ne sera pas le même selon l'âge. Okay ? Mais en tous les cas, il y a bien une différence entre les deux. Cependant, effectivement, on retrouve, si vous voulez, notre approche, elle n'est pas prostitution centrée. Hein ? Mon objectif, ce n'est pas que Gertrude sorte de la prostitution. Bien sûr que c'est une étape qui est incontournable, mais c'est pas l'objectif qu'on a. L'objectif, c'est que Gertrude sorte de là, mais surtout se reconstruise et vive autre chose. Et ça modifie quand même l'approche qu'on va avoir avec le jeune. Parce que parfois, avec le jeune, il sait que je sais qu'il y a de la prostitution, mais on va parler pendant 2 ou 3 séances d'autre chose. D'accord ? Pour installer une énergie de vie qui fait que, effectivement, on va restaurer l'estime de soi, par exemple, hein, la confiance en soi. Elles sont écrasées, ils sont écrasés. Ce que, effectivement, Aziz a fini dans la deuxième étude par nous dire, c'est ça. C'est un faux semblant. Enfin, on se donne l'allure de moi, je gagne plus que vous, je me fais 1000 euros par jour, ce qui est absolument faux, hein. La grande majorité de ceux et celles qu'on rencontre ne gagnent rien. Ne gagnent rien. Ah si, ils gagnent d'avoir du produit. OK. Et un toit, mais ils auraient un toit aussi dans le foyer ou à la maison. Hein. Ils ont des beaux sous-vêtements. OK. Et ça, c'est l'outil de travail. Mais souvent, ils n'ont effectivement pas d'argent. Hein. Sauf ceux ou celles qui le font sans proxénète, mais c'est quand même souvent quand elles ou ils sont déjà plus âgés. Alors, cette approche, elle est quand même basée sur la psychologie positive. Vous voyez, plutôt donner envie de vivre que de dire « faut que tu sortes de là parce que regarde le problème que tu as ». Le problème, en fait, ils essayent de se le cacher, mais ils le connaissent. Donc, donner envie de vivre, être sur l'empowerment et sur les compétences psychosociales. Je sais qu'avec la PJJ, vous travaillez souvent sur les compétences psychosociales, donc je ne vais pas y revenir, mais c'est le lit vraiment de l'approche au début pour créer le lien et créer l'envie de nous écouter et de marcher un peu avec nous. Notre approche, elle est motivationnelle. Ben oui, parce que, effectivement, pour être très clair, face à toute personne qui a une conduite qui est à risque, qu'est-ce qu'on a comme outil pour donner envie de changer, pour proposer de changer? Qu'est-ce qu'on a? Il y a 3 outils possibles. Mais vous comme moi, on n'en a qu'un seul, en fait. Vous en avez peut-être un demi de plus que ce que la CPE a. Alors j'y vais. Le premier, c'est l'adhésion. la recherche de l'adhésion. C'est celle que vous avez, c'est celle que la CPE en a. Le deuxième, vous avez un petit peu l'injonction. Bon, vous avez des mesures quand même de justice. Donc vous avez un petit levier pour dire « il faut ». Mais enfin, on sait bien que si le jeune, même qui est suivi par la PJJ, il veut pas, eh ben, on pourra pas lui donner de claque et on pourra pas l'obliger. Hein. Donc oui, vous avez quand même un levier par rapport à l'injonction, mais qui marche si le jeune, il est encore impressionné par la justice. Hein. Et le troisième, c'est la contention. Et là, ben oui, vous avez, vous, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes effectivement acteurs dans les maisons d'arrêt ou les prisons pour mineurs ou les CEF, hein, oui. Donc là, c'est de la contention, mais évidemment que le gros quand même des jeunes que vous rencontrez et tous les jeunes que moi je rencontre, on n'a pas ça. Et puis sinon, il y a du côté de l'hôpital psychiatrique fermé. Mais là, c'est quand même pas souvent. Il y a deux jours, je discutais avec... on me donnait des nouvelles d'une jeune dont j'avais entendu parler. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'ai les parents au téléphone. Et cette jeune, ça fait un mois maintenant qu'elle est en hôpital fermé, hôpital psychiatrique fermé à 16 ans. Le premier jour où ça s'est passé, elle était maintenue par 3 infirmiers et un médecin. Pour vous dire, alors qu'elle ne pèse pas, elle pèse moins de 50 kilos. Hein. Donc, vous dire la force de la crise qu'elle pouvait avoir. Elle est donc depuis un mois à l'hôpital, mais ce qui m'est dit, c'est qu'en fait, elle parle très, très peu et elle est toujours très, très raide. Donc, l'idée, c'est qu'elle contient, elle fait bonne figure, mais pour l'instant, il n'y a pas eu encore... C'est justement cette adhésion, ce lâcher prise et cet accès à ce qu'il y a derrière cette armure qu'elle se met. Donc le motivationnel. La deuxième chose, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot de l'approche expérientielle, c'est un joli mot pour dire tout simplement qu'on travaille avec du concret, avec des jeux, pour parler de l'indicible, de tout ce qu'ils ont vécu, et de toute cette exploitation qui est source d'une honte et d'une culpabilité pas possible, effectivement, le jeu est quand même très, très utile. J'ai des petits jeux avec des étiquettes, et bien souvent, des jeunes peuvent me dire « Ah ben ça, il me l'a fait, par exemple. » Elles ne peuvent pas prononcer le mot. J'en ai une, un jour, elle m'a dit « Je n'ai toujours pas pu prononcer le mot. » Le mot, c'est « prostitution ». Elle m'a dit, j'ai essayé deux fois avec des psychologues, je suis sortie vomir. C'est somatiquement, c'est impossible. Donc c'est là où les enquêtes, je comprends, la police est obligée de faire une enquête. Elle a besoin d'avoir des mots, quoi qu'ils m'ont dit que si on désigne ça et qu'elle veut bien qu'on se fasse le porte-parole, c'est recevable quand même. Mais de fait, les mots sont difficiles. Et puis, les jeux, ça met en situation. Et je ne sais pas si vous connaissez l'approche de Singapour au niveau des mathématiques. Et l'approche de Singapour, j'aime bien parce que ça marche vraiment très, très, très bien. Les pays qui ont adopté cette approche pour les mathématiques, c'est extraordinaire. Ils partent du principe que le petit, il a besoin de concret. Donc, on commence les maths avec des cubes, avec des choses à toucher. La deuxième étape, c'est l'imager. Et moi, le jeu que j'utilise pour parler de toute cette violence sexuelle ou le consentement, etc., etc., c'est de l'imager, évidemment. Pas du concret, mais de l'imager. Parce qu'il faut passer par cette phase-là pour atterrir après à l'abstrait. Les mathématiques, c'est de l'abstrait. Et du coup, pour pouvoir discuter aussi avec les jeunes de choses, de mots qu'on utilise pour parler de la prostitution, beaucoup de nos mots sont abstraits. Ils font référence à des concepts. Donc c'est pour ça qu'ils répondent à côté. Donc je vais y venir avec les mots que je vous propose de revisiter. Et puis ensuite, notre approche, elle est donc familiale, et on y tient, c'est-à-dire que dans l'immense majorité des situations, nous n'arriverons pas à faire quelque chose par rapport à ce vivre autrement, ce vivre autre chose sans les parents. Je ne dis pas forcément qu'ils retourneront tous au domicile des parents, mais regardez, souvent dans les fugues, là il va y avoir Noël, ou au moment de l'anniversaire de la jeune, ou autre, ou à la naissance, j'en ai une là, par exemple, elle est en fugue depuis 4 mois, plus personne. Moi j'arrive à la voir une fois de temps en temps dans un café, mais sinon elle ne donne plus signe de vie. Et là, elle sait que sa maman vient d'avoir un bébé il y a 15 jours. Ben là, on va avoir un moment, évidemment, qu'elle ne rêve que de revenir à la maison. Voilà. Et donc là, on va avoir un moment privilégié pour essayer de raccrocher quand même quelque chose avec la famille et avec aussi l'ASE qui n'a plus du tout de contact avec elle. Donc la famille, et puis bien sûr, tout le suivi thérapeutique classique quand la jeune est là en capacité d'avoir effectivement ce travail-là. Alors, le contexte sociétal, je passe très très vite, ça nécessiterait beaucoup de temps, mais enfin quand même, nous sommes dans une société qui permet cette explosion de l'exploitation sexuelle des gamins. Les réseaux sociaux, c'est le grand boom, c'est effectivement, et c'est pour ça que les deux études d'Aziz avant Covid ou après Covid, c'est le Covid, mais c'est surtout ce que le Covid a mis en lien beaucoup plus fréquemment entre les jeunes et les prédateurs, hein, qui a aussi accéléré le phénomène. Et puis, dans tout ça, alors je passe sur tous les réseaux sociaux, il faudrait qu'on le passe, mais quand même, le porno, c'est du trauma. Là, sur une année, alors que ce n'est pas notre sujet, c'est le quatrième, on me demande d'aller voir un jeune garçon, donc c'est le quatrième jeune garçon entre 10 et 11 ans qui sont accros au porno, mais vraiment accros, depuis plusieurs années. Dont un de 10 ans qui disait « Mais sortez-moi ça de la tête, sortez-moi ça de la tête !» Et en même temps, il pleurait pour qu'on lui rende sa tablette. Donc avec ça, on n'a pas fini de voir effectivement toutes les problématiques que ça crée. Ce sont des enfants, les quatre, qui ont des problèmes relationnels qui sont évidents. Et je ne vous parle pas des problèmes sexuels. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais le relationnel avec les enfants de leur âge, il est complètement... est tordu. Donc, au moment de la puberté et de la sexualité, qu'est-ce que ça va faire si on n'a pas ce lieu pour travailler cette addiction au porno ? Il n'y a quand même pas beaucoup non plus de thérapeutes qui travaillent sur cette question-là, si petit. Ok, alors, très vite. Les différentes formes quand même de situations de prostitution, là aussi on va trouver toute une hiérarchie entre tout là-haut, Zaya qui va dans des beaux hôtels voir des footballeurs et qui du coup ensuite a une aura où elle va pouvoir aller sur les plateaux télé, égérie d'un couturier, aller être actrice dans des films et être influenceuse. C'est une icône pour certaines de nos gamines. Ça semble tellement facile. Voilà. Il y a aussi les icônes qui sont vues dans les téléréalités. On en a une qui nous avait dit « Comment est-ce qu'on peut faire un CAP téléréalité ?» Alors, on a dit ça, on ne connaissait pas, mais voilà. Et c'est vrai que souvent, vous en avez dans ces téléréalités qui ont un passé d'escorte. Donc, vous avez toute une hiérarchie, et je vous ai mis simplement, effectivement, celles qui vont dans des super hôtels, ce n'est pas la majorité de celles qu'on rencontre, mais évidemment, on a plus souvent des jeunes qui vont dans des hôtels un peu minables ou dans des Airbnb plus ou moins jolis, plus ou moins minables. Et puis, il y a celles quand même aussi qui sont carrément dans des voitures, dans des caves. Et voyez, c'est éventuellement intéressant au retour de fugue de voir dans quel état elles reviennent. Si elles sont propres, qu'elles n'ont pas maigri, ou au contraire qu'elles viennent avec des vêtements de n'importe quel style, des fois des vêtements qui ne leur appartiennent pas, mais qui sont en loc, ça dit quelque chose de peut-être le lieu où elles sont et de l'estime d'elles-mêmes qu'elles ont. Parce que Zaya, si on l'écoute, c'est plutôt une héroïne. Si on prend la jeune qui est nommée la crasseuse dans le quartier, hein, je suppose que vous avez déjà entendu ce nom-là, de crasseuse, c'est pas elle qui se désigne comme ça, bien sûr, hein, mais ce sont les autres. Si elles ont cette étiquette-là, évidemment que l'estime d'elles, même à l'intérieur de la prostitution, elle est vraiment terrible. Hein. Donc ça va nous dire quelque chose du travail qu'on a à faire pour la valorisation de ces jeunes. Et ça, on va le voir un petit peu en fonction des lieux où ça se passe, hein, bien sûr. Mais ça dépend aussi des clients. Il va y avoir une sacrée différence entre les gamins ou les gamines qui ont 15 à 20 clients par jour. Hein, on en a une qu'on m'a demandé de venir, d'aller voir à l'OCRET, vous savez, l'Office central de répression de la traite des êtres humains. Et donc, il l'avait mise sous écoute et elle avait eu 150 clients différents en 15 jours. D'accord ? Il y en a une autre que je connais depuis 4 ans et l'autre jour, on parlait des clients. Et je lui dis, est-ce que, puisque je te connais depuis 4 ans maintenant et qu'elle a beaucoup avancé, qu'elle va beaucoup mieux, je dis, est-ce que tu as une idée du nombre de clients que tu as pu voir ? Alors, elle n'a pas été 4 ans dans la prostitution, hein, mais sans doute à peu près 2 ans. Et elle me dit, oh, j'en parlais l'autre jour avec une copine, enfin voilà, et on se disait, plus que 1000, c'est sûr, mais combien, je ne sais pas. Alors on disait qu'un homme sur 7, je crois, c'est ça qui était dit tout à l'heure, qui aurait recours à la prostitution. Waouh, j'espère que ce n'est pas ce chiffre-là, mais c'est terrible. Hein. Vous voyez ? Les trous dans la raquette, c'est quand même que, par exemple, quand on a une suspicion d'un réseau de proxénètes qui exploite Gertrude, on va demander à qui c'est qui est convoqué au commissariat ? C'est Gertrude. Donc, pour les copains dans le quartier, qui c'est la coupable ? C'est elle. C'est elle qui est convoquée. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire les enquêtes à partir des clients ? Comme on fait d'ailleurs pour les consommateurs de produits, où on essaye de les titiller pour avoir les adresses et les noms des dealers. Pourquoi on ne fait pas la même chose ? Parce que évidemment que ça ne marche pas, hein, évidemment qu'elles ne disent pas. Ah oui, parce qu'elles ont quand même un peu le couteau sous la gorge. Hein. Alors, je dis aussi deux mots, mais ça va dépendre bien sûr aussi du nombre de clients et du style de clients. Et puis, ça va dépendre aussi du style de proxénète qu'elles peuvent avoir. J'en ai eu quand même très, très, très peu qui n'avaient pas du tout de proxénète et qui faisaient ça toutes seules. Alors, les plans, c'est des géométries bien sûr variables. Ça peut être juste le petit copain. Ça peut être les deux copines qui embarquent une troisième. Ou alors, à trois, elles sont tantôt celles qui font la sécurité, et tantôt celle qui est effectivement à avoir l'activité sexuelle contre rémunération. Et parfois, donc ça tourne. Est-ce que vraiment on peut dire qu'il y en a une qui est proxénète là-dedans ? Ben non, puisque c'est les trois qui travaillent un peu comme ça. Ça peut être effectivement un groupe qui est beaucoup plus structuré. Et là, quand même, c'est là où il y a le choc avec le deal. C'est qu'on est quand même souvent beaucoup plus avec des réseaux très organisés du deal qui ajoutent un produit à vendre. Et là, vous dire que si moi je devais être demain proxénète, c'est clair que l'outil que j'utiliserais, c'est le produit. Quel produit ? Ben, même si on n'a pas beaucoup de sous, si on a 14 ans, qu'on n'a pas beaucoup de sous, on essaye d'investir dans 3 produits, le protoxyde d'azote, le cannabis et l'alcool. C'est le trio qui coûte pas trop cher et qui est hyper efficace. Et puis, alors, le produit va servir à quoi ? La première chose, c'est la soumission chimique. D'accord ? On fait un guet-apens, on organise un guet-apens. La gamine là, que j'accompagne qui a été proxénète, c'est ça, elle a recruté en amenant vers un plutôt son petit copain, mais il y en a d'autres, c'est ils amènent à une fête. Et la fête, c'est un guet-apens où il y a du produit, donc on fait consommer, et une fois que la jeune ou le jeune, parce que ça peut être aussi des garçons, sont dans un état d'ébriété et qui ne se rendent plus trop compte des choses, eh bien effectivement, il va y avoir un viol par un ou plusieurs. La jeune dont j'ai entendu parler l'année dernière, le plus, c'était 15 garçons qui l'ont effectivement violée. Et elle était dans les pommes avant, elle était inconsciente avant les derniers. Elle a été filmée, chantage le lendemain, comme elle ne se souvient plus très très bien, eh bien le lendemain, on montre les vidéos en disant, eh ben écoute, tu vois, c'est toi qui as voulu, puis t'étais heureuse, hein, et puis dis donc, t'en redemandais. Enfin, on peut lui raconter n'importe quoi. Et du coup, à partir de ce moment-là, dire, ben, tu sais, maintenant tu viens. Alors, comme elle est dans un état de sidération, elle réagit pas trop, mais on augmente un peu l'emprise en disant, on a la vidéo, évidemment, on sait où habite ta mère, on va lui balancer, ou on balance ça dans ton lycée si tu reviens pas. Donc le chantage finit vraiment cette manipulation. Je vais passer très vite pour aller quand même vers quelque chose de plus important, mais j'aurais quand même voulu que vous essayiez autour de vous de poser des questions sur, à votre avis, pourquoi elle se prostitue, oui. Pourquoi elle bascule et elle tombe dans la prostitution, comme si c'était Dark Vador qui est passé du côté obscur de la force. J'entends quand même encore quelquefois, de moins en moins heureusement, mais encore des fois des professionnels qui disent « oui, mais elle est addict au sexe ». J'ai entendu il y a encore un an un professionnel qui me dit « oui, mais il y en a quand même qui aiment ça ». Non mais allô quoi. Quand je vais en prison, effectivement, que les proxénètes disent ça, je comprends, c'est leur moyen de défense. Mais pas les professionnels qui s'occupent de jeunes quand même, ça c'est pas possible. Donc même aux jeunes proxénètes, je dis ah bon, d'accord. Donc vous pensez que faire des fellations à 15 hommes dans la soirée, c'est vraiment source de plaisir? Bah écoutez, allez-y, pourquoi pas vous? Bah non, on est des garçons. Bah si ça provoque du plaisir d'avoir un sexe dans la bouche et autres chez les filles, ça devrait le faire aussi chez les mecs. Donc, il n'y a pas de problème, faites-le. Et puis, la sodomie, si c'est un plaisir, ben, allez-y aussi. Ouais. Donc là, ça, c'est évidemment, pour eux, c'est impossible, mais ça aide quand même un peu aussi à réfléchir. Par rapport à l'addiction au sexe, je m'appuie sur ce qui était dit avant par Aziz, sur le psychotrauma. Le psychotrauma, la souffrance lors des moments de souvenirs traumatiques qui refont surface provoque possiblement des conduites compulsives pour à nouveau avoir un choc qui va replonger dans un état où le cerveau disjoncte. Et donc, on s'apaise. Donc, dans une quête d'apaisement de cette souffrance à cause du souvenir qui revient, des jeunes peuvent être en quête de retrouver un moment où on va les frapper. Je pense à un jeune garçon qui, dans ces moments-là, sort dans la rue et se trouve quelqu'un sur son passage pour être dans une bagarre et se faire frapper. Il se défend pratiquement pas, hein. Il revient avec des têtes pas possibles. Ou bien, effectivement, des filles vont tomber dans une situation de viol. Okay ? Et là, avec une collègue qui est à l'hôpital Robert Debré, qui est addictologue, elle parlait souvent de addiction au sexe. Et à chaque fois, je lui disais, je n'aime pas ce terme. Et donc, nous avons trouvé une expression qui, je vous assure, provoque une discussion autant avec les parents qu'avec les jeunes. Et ça, ils l'acceptent. C'est une compulsion sexuelle en lien avec le psychotrauma. Alors, c'est plus long que dire addict au sexe. Mais c'est beaucoup plus juste et je vous assure qu'elles se reconnaissent là-dedans. Une compulsion sexuelle en lien avec le psychotrauma. Et du coup, elles se disent, ben, je suis pas normale. Il y en a une un jour qui discute à l'hôpital avec une gynéco parce qu'elle avait des saignements et autres. Et la gynéco finit par lui dire, mais peut-être que t'es sadomaso, je sais pas. Alors elle me dit, est-ce que tu crois que je suis sadomaso? Et je lui dis, mais attends, t'as 16 ans, avec tout ce que tu as vécu comme psychotrauma, c'est le contre-coup. Tu te rappelles, je t'ai dit, hein. Et puis, si dans 10 ans, voilà, quand t'auras 26 ans ou plus, si t'es guéri, enfin, si t'as pu poser ces psychotraumas, et que par contre, dans tes jeux sexuels, tu souhaites être sadomaso, ça, c'est ton choix. Mais il faut d'abord guérir de tous ces psychotraumatismes-là. Voyez. Alors, ça, je vais passer. Oui, les enquêtes sont très, très longues. Et en tous les cas, sur l'Île-de-France, nous avons la brigade des mineurs qui s'occupe des moins de 15 ans, qui souvent dit ce sont des victimes insupportables. Parce qu'elles ne veulent pas témoigner, elles fuguent, les enquêtes sont très très longues et du coup ça aboutit pas, elles se disent consentantes, elles ne veulent pas porter plainte. Et moi évidemment, je dis c'est plutôt la situation dans laquelle elles sont qui sont insupportables et qui font qu'elles ne veulent pas témoigner, etc., etc. Et là, je voudrais vous inviter donc à relire un peu les mots que nous utilisons quand on parle de protection, par exemple. Ah ben tu sais, dès qu'on sait évidemment qu'on suppose qu'il y a exploitation sexuelle, évidemment qu'on va faire un signalement. Et on va dire souvent à cette jeune, alors que ce soit à l'éducation nationale ou ailleurs, eh ben on va te protéger. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'on dit? On va te placer, possiblement. On va signaler. On va te proposer peut-être un séjour de rupture. Un éloignement, on va prendre ton téléphone, ce qui est quand même l'identité sociale pour une jeune, c'est quand même là-dedans. Hein. Donc vous voyez, c'est pas très très fun quand même. Hein. Donc le mot protection pour plein de gamins et de gamines aujourd'hui, c'est ça. Et vous avez de l'autre côté le proxénète, lui il dit, je vais assurer ta protection, je vais être ton agent de sécurité. Et il montre tout de suite qu'il est à côté, dans la salle de bain ou je ne sais pas où, et il assure la, soi-disant la protection. Il y a même des journalistes des fois qui écrivent hein, son agent de sécurité. Non mais allô, enfin, c'est quand même fou qu'on banalise comme ça. Mais pour la jeune, elle se dit, bah, il fait ce qu'il dit. Voilà. Alors évidemment, il faut déconstruire ça. Mais vous voyez, on a quand même du travail à faire là-dessus. Et je voudrais vraiment ne pas passer à côté, voilà, s'il reste un quart d'heure pour des questions après. Mais ces situations, elles sont insupportables et je vous invite vraiment à considérer que Gertrude ou Raoul, qui serait aussi dans cette victime d'exploitation prostitutionnelle, ils ont trois niveaux d'emprise. Trois niveaux d'emprise, d'accord ? Pas un, trois. Il y a d'abord évidemment le réseau de proxénètes qui est plus ou moins barbare, plus ou moins violent. Hein, et je vous assure qu'aujourd'hui, il y en a véritablement très, très violents hein, et qui peuvent être qualifiés d'actes de barbarie, véritablement. Mais il y a aussi donc, les addictions. Ah oui, je n'ai pas fini tout à l'heure. Je vous disais, le produit sert à trois choses. Je vous ai dit la soumission chimique, ou plus exactement la vulnérabilisation chimique. Vous savez, la différence entre vulnérabilité chimique et soumission chimique, c'est que dans la soumission, la personne ne sait pas qu'elle a consommé un produit qui la met dans un état second. Dans la vulnérabilité chimique, c'est qu'on a pris des produits, on le savait. Donc, par exemple, c'est la sortie de boîte. On sait qu'on a consommé, on n'est pas très, très frais. Mais par contre, il y a un prédateur qui est à la sortie de la boîte pour exploiter cet état second dans laquelle celle ou celui qui sort de boîte se trouve. Okay ? Et moi, je dis pas vulnérabilité, mais je dis vulnérabilisation, ce qui n'est pas un mot français, mais tant pis, parce qu'il y a une intention là-dedans. C'est pas on attend à la porte la personne qui a trop bu, mais on fait boire, on fait fumer, et l'outil extraordinaire, même pour les plus jeunes, c'est les ballons, parce que ça ne fait pas peur. Donc, le protoxyde d'azote ne fait pas peur. Et donc, même des gamins de 12 ans peuvent en consommer. D'accord ? Donc, c'est cette vulnérabilisation chimique. La deuxième chose, c'est la dépendance aux produits. Ben oui, si on est dépendant, on va être obligé d'y revenir. Hein. Et si malgré tout ça, la jeune ou le jeune dit « moi, j'en peux plus, ça me fait trop souffrir » ou « je veux vivre autre chose », etc., etc., à ce moment-là, on lui dit « non, mais avec tout ce que je t'ai donné, tout ce que j'ai dépensé pour toi, entre les hôtels, oui, il y en a même un qui m'a dit, un professionnel qui a dit, oui, en plus, il faut payer l'hôtel, même quand elles ont leurs règles. Alors ça, c'est quand même un peu embêtant, parce que ça ne rapporte rien. D'accord ? Donc, avec tout ce que j'ai dépensé pour toi, tout le produit que je t'ai donné, tu ne crois quand même pas que tu vas t'en aller comme ça, tu me dois 1 000, 5 000 euros, et du coup, on se retrouve exactement comme dans la traite des êtres humains au niveau international, la dette est vraiment au cœur de l'emprise, parce qu'évidemment, elles arrivent rarement à rembourser cette fichue dette. Et puis donc, cette troisième style d'emprise, c'est dû au psychotrauma qui crée tout un tas de troubles qui propulsent la répétition. Et comme je vous l'ai dit, là encore, il y a des prédateurs qui créent le trauma exprès pour pouvoir exploiter. Vous savez, dans certains pays, le viol est un outil de guerre. Eh bien, je vous affirme que j'ai pas mal de situations où c'est le viol qui a été l'outil pour chosifier Gertrude ou Raoul. À propos de Raoul, donc des garçons quand même, vraiment, cette étude d'Aziz, j'en parle partout parce qu'il faut véritablement avoir conscience que nous n'interrogeons pas suffisamment la sexualité des garçons. Et si on se met à être un peu plus à discuter avec les garçons de leur sexualité, on verra un peu plus ceux qui ont déjà subi des choses et on aidera aussi à ce qu'ils aient pas en tête que la fille qui n'est pas vierge, c'est qu'une pute dont on peut faire ce qu'on veut. Parce qu'effectivement, c'est quand même tous ces courants masculinistes aujourd'hui sont en train d'augmenter de façon terrifiante. Et chez les jeunes garçons, moi je vais, enfin vous en voyez aussi bien sûr, hein, mais en allant dans les collèges faire des activités avec eux, eh bien il n'est pas rare effectivement que les filles soient vraiment cataloguées dans deux catégories, les pures, qu'on va peut-être épouser, et les autres, des putes, dont on peut faire ce qu'on veut. Notamment, et le pire du pire, c'est possiblement l'utiliser pour gagner du fric. C'est malheureusement quand même un peu ça. Donc cette sexualité des jeunes garçons, elle est véritablement à travailler. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Chez les jeunes garçons, la question, c'est qu'il y a quand même pas toujours un proxénète ou une proxénète. D'accord ? Il y a moins de jeunes garçons qui sont sous l'emprise d'un proxénète que chez les filles. En tous les cas, moi, dans ce que je vois. En revanche, c'est effectivement beaucoup plus sur les réseaux sociaux qui vont être happés par des prédateurs, donc possiblement des proxénètes, mais surtout par des clients. Parce que s'il y a autant de jeunes garçons finalement qui ont été exploités sexuellement, c'est parce qu'il y a des clients qui recherchent des jeunes garçons. D'accord ? Et donc s'il y a de la demande, on va créer les objets à vendre. Et donc j'en ai quand même plusieurs de ces jeunes garçons, c'est en cherchant sur Internet à avoir des réponses à leur interrogation par rapport à leur orientation homosexuelle, qu'ils vont tomber sur des prédateurs, qui vont se faire passer possiblement pour un jeune de leur âge, et puis ils vont donner des bons conseils, gentils comme tout, et ils vont provoquer à un moment donné l'envoi de photos, et puis ensuite d'enclencher le système de chantage, tout comme pour les jeunes filles. Et on a des jeunes garçons, le début, c'est une invitation par un de ces prédateurs sur Internet. Or, quand il arrive, il n'y a pas un, mais il y a un groupe, et notamment de chemsexeurs, je pense que vous connaissez cette expression, donc c'est le chemical sexuality, donc des groupes où la prise de produits n'a comme objectif que de soutenir l'activité intense de sexualité pendant une nuit, pendant deux nuits, trois jours, enfin voilà. Et évidemment qu'il faut, pour avoir un bon week-end, il faut être nombreux quand même. Et on a quand même certains qui ont recours à des personnes prostituées. Et du coup, maintenant, je vous affirme que nous en avons quelques-uns qui ont été mineurs, exploités dans ce milieu-là. Donc, je ne dis pas que tous le sont, mais ça arrive puisque nous avons des jeunes qui sont embarqués comme ça. Et je vous dis, par exemple, un jeune qui souhaite arrêter. Donc, sa mère lui a pris son téléphone pendant 3 mois. Il n'a pratiquement pas pu sortir de chez lui pendant 3 mois. Il réouvre son téléphone après 3 mois et il est harcelé par qui ? Par les clients. Et vraiment du harcèlement, hein, qui vont régulièrement lui demander de revenir et lui proposer du produit et lui proposer de l'argent. Ah oui, parce que dans ces réunions-là, le produit, c'est plus les trois dont je vous ai parlé, alcool, cannabis, protoxyde d'azote, mais ça va être des produits comme la 3-MMC, la cocaïne, des produits qu'ils ne peuvent pas se payer. Hein. Et donc, évidemment, que s'ils veulent le produit, ils ont la soirée qui va avec. Et ceux-là, par exemple, ne gagnent rien, ou très peu. Parfois, le groupe donne de l'argent, ou parfois, c'est juste du produit.
Madame. Alors, David, il est 40.
Oui. Voilà,
il est 40.
J'aurais beaucoup de choses encore à vous raconter. Je finis avec cette petite diapo-là, avec les mots qui n'ont pas du tout le même sens et qui sont difficiles à prononcer, avec les jeunes en première intention, en tous les cas. C'est le mot prostitution. Rappelez-vous, si vous parlez de prostitution, Gertrude ou Raoul, eux, ils vont entendre, ils me prennent pour une pute. Et la pute, dans les collèges, c'est la coupable. D'accord ? C'est pas le proxénète. Hein. Des collégiens peuvent dire, bah, le proxénète, lui, il profite. Si elle veut être comme ça, c'est elle qui est coupable. C'est elle qui est méprisable. Pas le proxénète. Donc, possiblement autrement. Le mot victime, c'est la même chose. Rappelez-vous, les collégiens victimisés, c'est quand même les losers de chez losers. Et donc, on préfère être un délinquant, on préfère être une prostituée consentante, plutôt que de se dire « je suis victime ». Donc, nous, on va le travailler, mais avec les jeux, et on va le travailler autrement, en mettant plutôt le focus sur les salopards qui ont exploité, plutôt que de mettre le focus sur la victime. Voilà, proxénète. Le consentement, c'est pareil, ça se travaille, parce que c'est un concept qu'ils ne visualisent pas. Le mot argent. Un proxénète m'a dit, vous savez, vous lui vendez du rêve, vous entrez dans sa tête. Il y en a beaucoup, beaucoup qui disent ça. Hein, on entre dans sa tête. Et ensuite, avec 500 ou 600 euros, vous avez fait le tour. Et après, il n'y a que des rentrées d'argent. 500 ou 600 euros. Vous voyez, c'est moins cher que d'investir dans du produit à vendre. OK, je vais m'arrêter là. Mais surtout, n'hésitez pas, j'ai laissé quelques petites cartes là. Et puis, bien sûr, vous pouvez faire appel, encore une fois, grâce aux conventions que nous avons au niveau national et au niveau Île-de-France et Outre-mer. Je peux quand même prendre
une ou deux questions.
Oui, puisque il faut que je m'en aille à 13h. Voilà. Allez.
Ouais, c'est juste par rapport au mot victime. Donc c'est vrai que nous on travaille aussi victime. On n'est jamais victime toute seule ou tout seul. C'est victime de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on travaille avec les jeunes. C'est pour plus isolé ce mot. Moi, je voulais revenir par rapport à la prostitution des garçons. et les liens que vous faites avec les narcotrafiquants. C'est sûr que c'est pas le réseau aussi connu que pour les femmes, pour les jeunes filles, mais souvent c'est une question toujours tabou, un lien avec impossibilité qu'un homme soit dominé. Donc les garçons ils ne parlent pas de ça. On revient à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Aziz. Donc nous on voit que les réseaux de trafic de drogue ils sont saturés, d'où après ce de réseau de prostitutionnels, mais aussi les certains garçons qui n'arrivent plus faire affaire dans les stups. Bon, on leur demande de payer autrement. Et on a des jeunes garçons qui justement qui passent de l'autre côté et qu'on moi je pense que c'est important. Enfin, est-ce que vous avez des retours aussi? Est-ce qu'il y a les études à ce niveau-là? Et ils ne parlent pas, ils ne veulent surtout pas parler, ils ne veulent pas porter plainte, mais qui sont vraiment dans ce réseau. Et comment on peut travailler ça? Il y a de plus en plus parce que c'est beaucoup plus simple à travailler. Il y a moins de on peut dire phénomène de bande pour le territoire. C'est encore il y a des places quoi pour ces trafiquants.
Alors la question exactement c'est quoi? Est-ce qu'on a des
est-ce que vous avez des outils? Est-ce qu'il y a des études? Parce que c'est vraiment quelque chose que de plus en plus et en fait je trouve rien qui peut nous qu'on peut utiliser, y compris en termes des assos, on a les éducateurs de rue, mais Amicale d'Uni travaille aussi, on travaille beaucoup et bien avec eux, mais c'est plus vers les filles, donc comment on peut travailler ces questions et sur quoi on peut s'appuyer?
Alors nous, c'est à peu près 6% de nos filles actives, et vous voyez, entre les 6% et les 40% d'Aziz, il y a encore du chemin à faire. Nous, évidemment, on ne rencontre les jeunes que quand ce sont les professionnels ou les parents qui nous les amènent. Et comme je vous dis, c'est le repérage de ces situations qui sont quand même souvent difficiles. On constate que c'est quand même souvent quand une homosexualité quand même est très, très visible, qu'il y a une interrogation soit par les parents, soit par les professionnels, avec des fugues aussi. Voilà, donc c'est les deux choses, à mon avis, qui font que c'est repéré. Pour le travailler, pour en discuter, du coup, on n'a pas un recul énorme, puisque, je vous dis, c'est 6%, donc c'est quand même beaucoup moins que les jeunes filles. Ah oui, et j'ai oublié le troisième critère, c'est aussi en psychiatrie. Parce qu'on en a quand même beaucoup de ces jeunes garçons. Mais je suis pas en train de dire qu'ils sont plus hospitalisés que les autres, mais c'est comme ça que des professionnels le voient. Dans le cadre de l'hospitalisation, dans le cadre effectivement d'une homosexualité qui transpire, enfin voilà, et qui pose question avec des nombreux partenaires, ou bien effectivement sur les réseaux sociaux quand ça émerge. Donc après, je pense que il faudrait effectivement trouver des jeux pour pouvoir discuter en individuel. En groupe, ils ne peuvent pas en parler. C'est impossible. Même, par exemple, en prison, les proxénètes, tous disent jamais. Nous, on n'exploite jamais. Ah non, on ne fait pas bosser les garçons. L'homosexualité, c'est sale. Voyez. Alors qu'en individuel, il y en a quand même plusieurs qui m'ont dit « J'ai commencé par un garçon et d'ailleurs, je gagnais plus d'argent avec lui qu'avec les filles. » Donc, c'est bien que ça existe. Mais pour arriver à en parler, effectivement, donc si ça, vous avez des exemples, moi, même si on est éloigné par la distance, c'est quelque chose que je veux bien essayer de travailler parce que ça serait pour vous, mais après, on pourrait le proposer à d'autres lieux qui ont essentiellement des jeunes garçons parce que ça ne se repère pas suffisamment. Chez les MNA aussi, hein. Mais là, c'est quand on a des acteurs qui osent parler du parcours de migration. Parce que dans le parcours de migration, on sait bien qu'ils ont pu subir des tas d'exploitations, effectivement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions?
C'est bon, ça marche. Donc, en fait, j'avais une première remarque sur votre dernière diapo. En fait, souvent, on dit argent facile. Et c'est vrai que j'aime bien l'argent rapide, parce que c'est loin d'être facile. Comme argent, c'était juste une petite remarque sur comment parler de vocabulaire. Et ma question, elle est plutôt sur, de votre expérience, est-ce que les jeunes captés par le milieu festif, est-ce que vous en avez de l'expérience ou pas? Parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé dans le sud de la France,
dans le milieu festif, par exemple, dans les rave parties ou les
voilà,
choses comme ça.
Voilà, c'est tous ces jeunes qui fréquentent, c'est une catégorie de jeunes qui ont des appétences, enfin, qui sont, ont des profils particuliers. Beaucoup, il y a des jeunes, entre autres, dans le Tarn, il y a des parties de jeunes qui étaient dans les rances. Mais du coup, est-ce que l'entrée, ce qui n'a pas été évident, enfin, moi, quand j'ai découvert que, à travers ce milieu-là, notamment la consommation, il y avait des passages par des viols initiatiques, principalement, mais il y avait du passage dans des exploitations sexuelles. Et bien, du coup, je voulais savoir de votre expérience si vous aviez déjà repéré ça ou pas.
Alors, par rapport à l'argent facile, c'est un thème que j'aime beaucoup, beaucoup travailler en collège et dans les foyers. Parce que, effectivement, c'est un rêve comme ça. Quand on discute quand même avec eux et qu'on en vient à parler de cette question de l'exploitation sexuelle, eux disent c'est facile dans le sens où il n'y a pas besoin d'études, il n'y a pas besoin de stage, c'est là maintenant tout de suite. Et je fais une parenthèse sur l'école, j'ai quand même pas mal de situations là dernièrement où elles disent toutes je n'ai plus besoin, je n'y retournerai pas à l'école. Parce que de toute façon, je n'en ai pas besoin. Et de toute façon, même si j'y retourne, je n'aurai pas d'emploi. Donc ça, c'est les phobies scolaires, j'en avais vu beaucoup. Mais cette discussion très organisée de toute façon, l'école ne mène à rien, et puis j'en ai pas besoin, enfin bref. Voilà. Et puis par rapport donc à votre deuxième question, le milieu festif, voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que sur Paris, on a un peu moins de lieux où il y a vraiment des rêves parties d'organiser. Mais enfin, quand même, j'accompagne une jeune qui est vraiment dans ces cercles-là. Je la connais depuis un peu plus d'un an. Et elle, voyez, par exemple, elle n'a jamais dit qu'elle était... Si, elle m'a dit une fois comme ça en passant qu'elle avait pu être escorte. Parce que là, je pense que c'est vraiment parce qu'on lui a donné de l'argent. Mais sinon, elle dit je vais dans les rêves parties, je suis dans le chemsex. Voyez, elle s'identifie pas à la prostitution parce que c'est pour le produit et le sexe. Et elle, le sexe, c'est comme elle a pu me dire après, voyez, dans l'opinion, c'est elle a pu me dire, mais en fait, je n'ai jamais eu de relation sexuelle sans produit. Et là, je l'ai rencontrée il y a 15 jours pour la première fois. Elle m'a dit. Je peux te dire, j'ai eu une relation sexuelle là, sans produit. Et j'ai eu des sensations nouvelles que je ne connaissais pas. Donc, si vous voulez, elle se dit vraiment, elle se disait chemsexeuse. Et tout ça venait quand même d'un viol de son premier petit copain qu'elle aimait, qui l'a trahi donc à 12 ans et demi, 13 ans. Enfin, voilà. Donc, vous voyez ce parcours, mais c'est la seule expérience que j'ai. Et elle était tout le temps dans un monde d'adultes, hein, quand même, à 16 ans. Quoi.
Merci, Madame David. On va en rester
merci.
Là.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée.